Bonjour à tous. En ce moment, je tente de diversifier mes activités et pour pouvoir être le joker de Michel Drucker dans Vivement Dimanche, je passe des tests. En attendant, je vous propose en toute discrétion de réécouter le meilleur de Pop Pop Pop. Aujourd'hui, dans mon mixeur de pop culture, Edge Burns sur la scène de Pop Pop Pop. Et avant ça, Pierre Richard et Laurent Lafitte. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Je me réjouis d'accueillir dans ce studio un roi de la comédie. Lui, un individu multifacette aussi à l'aise dans le registre de l'humour que dans celui du drame, sans parler même de la radio, puisque son passage sur France Inter il y a quelques années a laissé des traces et pas seulement sur les murs, non. Je ne parle pas de Guillaume Gallienne qui vient d'achever l'enregistrement de l'audiobook des 90 volumes de la comédie humaine d'Honoré de Balzac, mais d'un autre pensionnaire, non pas de la comédie humaine, mais de la comédie française, et un artiste qui a bien du mérite à garder le sourire en toutes circonstances. J'ai moi-même été pensionnaire quelques années chez ses bons pères, depuis leur mise en examen pour attouchement sur mineur, et je peux vous garantir qu'il faut prendre sur soi ou sur son voisin, peu importe, pour donner le change. Mais ça, c'est une autre histoire. Non, nous recevons Laurent Lafitte dans Pop Pop Pop, qui porte le nom d'un des plus prestigieux château du Médoc, un hectare dont le cardinal de Richelieu disait déjà en 1755 qu'il s'agissait d'un cordial généreux, délicieux, comparable à l'ambroisie des dieux de l'Olympe. Une définition qui s'applique à la perfection à notre invité.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
À mes côtés, Charline Roux. Bonjour Charline Roux.
Bonjour Antoine, bonjour Laurent.
Bonjour mon cher Laurent Lafitte.
Bonjour Monsieur Decaune.
Et bienvenue dans Pop Pop Pop. Dois-je dire d'ailleurs bonjour Laurent Lafitte ou bonjour Laurent Lafitte de la Comédie Française?
Vous devez dire bonjour Laurent Lafitte de la Comédie Française.
Alors bonjour
à
Laurent.
Chaque phrase. Dès que vous dites mon nom, il faut rajouter de la Comédie Française.
Ça sera tenu jusqu'à la fin de cette émission.
C'est ma mère qui a eu du mal, mais ça y est, c'est fait.
D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire bonjour à la manière du Grinch que vous avez doublé récemment?
À la manière du Grinch?
Oui.
Je sais pas ça. C'est dur à faire. Bonjour Antoine.
Ben voilà. Ici, il existe une question encore plus vicelarde qu'une réplique de Gérard Langue de Pute. Et cette question, c'est. Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses indécelables, furibondes, turlipotantes ou louvoyantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Gringe qui joue à vos côtés, Laurent Lafitte. Écoutez.
Je vous dirais, NPA, pour moi, c'est de la pop culture. Je me rappelle de l'émission, d'un truc qu'on regardait, c'était hyper générationnel. Et en plus, ça touchait toutes les générations. Je me rappelle, moi, rentrer des cours au collège et manger, machin, et le soir, on se posait. C'était nos moments de famille, quoi. Ouais, devant Nulle Part Ailleurs, avec Philippe, avec José, avec toi. Voilà, c'était des grands moments de télé. Et j'avais l'impression que c'était très populaire. Et ça se voulait pas, populiste, quoi. Et zéro condescendance. C'était une liberté de ton qui était vraiment charmante, quoi. J'en garde un super souvenir.
Je vous rassure, Laurent, il n'y a absolument aucune obligation à citer Nulle Part Ailleurs, évidemment, en référence à la pop culture. Mais pour vous, c'est quoi, Laurent Lafitte, la pop culture?
La pop culture, c'est la porte d'entrée à la culture, je dirais. Mm-hmm. Enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours, si je peux parler un peu de moi 5 minutes, et j'espère qu'on va pouvoir parler de moi une bonne heure.
7 heures vous est consacrée.
C'est gentil.
Alors, la fille de la comédie française.
Je me suis cultivé grâce à la pop culture. J'ai découvert Truffaut par Spielberg, par exemple, mm-hmm. parce que je me suis intéressé à Spielberg et voilà. C'était E.T. ça?
Ah oui, c'était
E.T. c'était un peu du troisième type. Mais comme vous leviez le doigt.
Ah oui, mais
genre itiphonome, en chantant le générique.
Non. Il fait des combos.
C'est débile.
Pas du tout, je levais le doigt parce que le vaisseau spatial descend du ciel.
Ah oui, mais ça,
et là, Truffaut dit, mince alors.
C'était pas clair. Oui, parce que Truffaut joue dans Rencontre du troisième type. Mais disons que c'est quand j'admire Spielberg et que j'apprends qu'il admire lui-même Truffaut, du coup, je me dis, pourquoi ce réalisateur français que je ne connais pas à 13 ans, Pourquoi Spielberg, que j'adore, le connaît? Donc je m'intéresse à Truffaut. Ou quand je suis fasciné par la musique de Bernard Herrmann chez Hitchcock, bah forcément je vais me rendre compte qu'il s'inspire aussi beaucoup de d'autres compositeurs. Donc je vais découvrir Prokofiev.
C'est un peu comme une arborescence.
Comme une arborescence qui se déploie et qui vous ouvre des horizons nouveaux vers la culture. Je dirais que la pop culture vous indique le chemin de la culture.
Très bien.
Donc la pop culture, c'est l'accent.
Vous avez eu le temps de réfléchir à votre mauvaise résolution?
Non, mais toujours pas. Okay. Mais ce sera dégoûtant.
On y reviendra tout à l'heure. Question accessoire, vous avez tourné avec Gringe en même temps que vous doubliez le Grinch. Vous n'avez jamais confondu les deux?
Si, tout le temps.
C'est vrai?
Non, c'était pas assez.
Vous préférez lequel des deux, d'ailleurs?
Gringe est moins râleur que Grinch.
Ouais. La pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après Morning in America, le morceau de Duran Jones and the Indication. Jones and the Indication, c'était Morning in America.
France Inter, le maxi best pop pop pop, Antoine Decaune.
Et nous sommes aujourd'hui en compagnie...
Très sonore celui-là.
Ah oui, il était pas mal. Hein.
Ouais.
En compagnie d'un comédien de cette série.
Et on met les gens à l'aise.
Le sens de l'accueil.
Et allez, le sens de l'accueil. Plaisir
oui,
d'offrir.
Évidemment, premier baiser.
Joie de recevoir.
Mais qui est-ce et pourquoi sa participation a-t-on marqué la série au point d'en être crédité sur Wikipédia sous la mention de point l'homme.
C'est vrai. Mais en même temps, sur Wikipédia, il y avait écrit n'aime pas les roues.
C'est vrai.
Je sais pas pourquoi.
Parce que c'est vrai.
Justement, je vous présente Charline Roux. Parce qu'elle a écrit votre pop portrait. Votre pop portrait, c'est votre portrait, Laurent, mais. Et c'est donc signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons Laurent Lafitte de la Comédie Française, une chic particule qui lui confère aussi un petit côté chevalier du genre sans peur et sans reproche. Sans peur forcément, je ne dis pas ça pour premier baiser ni classe mannequin, non je pense aux bordées d'injures qu'ont dû formuler silencieusement les victimes sans humour de ces saillies lors de diverses cérémonies de récompense. Laurent Lafitte, un meilleur défibrillateur de moments mornes, avec option bruxisme, et j'ajoute à ces quelques moments téméraires et grinçants sa définition toute perso de la sauce mornay dévoilée dans les recettes pompettes de Monsieur Poulpe. Les amateurs de cuisine et d'infanticide apprécieront. Et pour vous prouver qu'il est aussi sans reproche, laissez-moi vous rappeler brièvement et de manière non exhaustive son parcours au français, son seul en scène Laurent Lafitte comme son nom l'indique, et des rôles au ciné allant des Petits Mouchoirs de Canet à Elle de Verhoeven en passant par Au revoir là-haut de Dupontel, Chaos de Fabrice Gobert, Les Beaux Jours de Marion Vernoux, Papa ou Maman 1 et 2, comédie double cœur avec les doigts, Tristesse Club de Vincent Mariette et aujourd'hui l'heure de la sortie de Sébastien Marnier. On est donc très fiers dans Pop Hop Hop de recevoir Laurent Lafitte de la Comédie Française, chevalier de l'ordre et des arts et des lettres, sans peur et sans reproche, mais ça c'est pas contractuel alors vous m'en voudrez pas, mais comme c'est un peu long, je le dirai pas à chaque fois.
D'accord. Ben voilà. Très bien ce portrait.
Ben c'est sympa.
Oui.
Après, vous avez passé tout ce qu'il y a d'atroce, tout ce qui est dans ma personnalité,
justement,
dans mon parcours.
Justement, il manque un peu le passé de délinquant de Laurent Lafitte de la Comédie Française, parce que c'est un véritable thug que nous avons dans le studio France Inter, ma chère Charline. Figurez-vous qu'à l'âge de 12 ans, oui, il a falsifié sa carte d'identité. Oui, vous ne rêvez pas, pour aller voir des films interdits au moins de 13 ans.
Ben oui, puisque j'avais pas 13 ans, qu'est-ce que vous voulez que
c'était
je fasse?
C'était quoi le film pour le
C'était toutes les séries Z de l'époque, Toxic, Razorback,
ça va.
Tous ces trucs-là un peu. Voilà. Oui, j'aimais bien les films de genre, mais d'ailleurs, le film de Sébastien Marnier, c'est pas pour faire la promo,
c'est un film de genre.
C'est un film de genre, ben oui. C'est un film de genre.
Ne vous impatientez pas, on va y venir dans quelques instants. Avec un déglingo pareil, je sais pas ce que sa popliste nous réserve, allons-y quand même. Hop. Laurent Lafitte de la Comédie Française, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. On va commencer par le livre. Là, vous avez choisi un monument de la littérature française, le pavé incontournable du 19e siècle, donc de Victor Hugo, Les Misérables. Charline, vous qui m'accusez si souvent d'être votre Thénardier.
C'est vrai.
Résumez-nous en quelques secondes, c'est les 1543 pages de l'ouvrage.
Entre Waterloo et les émeutes de juin 1832, la vie de Jean Valjean, de sa sortie du bagne jusqu'à sa mort, le tout en 5 tomes, guest starring Fantine, Cosette, Marius, les Thénardier, Gavroche et la participation amicale de Javert.
Laurent Lafitte de la Comédie Française, avant de nous en parler, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes de cette voix de
choix,
basse?
Ça sous le nez comme ça. Alors on y va. Il y eut un silence redoutable. Puis, soudainement, une longue file. File de bras levés, brandissant des sabres, apparut au-dessus de la crête. Ça vous va? Non, je reprends ou on s'en fout?
Non, c'était très bien là.
Non, il faut que je me recrédibilise un peu.
Allez-y.
Il y eut un silence redoutable, puis subitement, une longue file de bras levés, brandissant des sabres, apparut au-dessus de la crête. Et les casques, et les trompettes, et les étendards, et 3000 têtes à moustaches grises, criant « Vive l'empereur !» Toute cette cavalerie déboucha sur le plateau, et ce fut comme l'entrée d'un tremblement de terre. Tout à coup, chose tragique, à la gauche des Anglais, à notre droite, la tête de colonne des cuirassiers se cabra avec une clameur effroyable. Parvenus au point culminant de la crête, effrénés, tout à leur furie et à leur course d'extermination sur les carrés et les canons, les cuirassiers venaient d'apercevoir entre eux et les Anglais un fossé, une fosse. C'était le chemin creux d'Ohain.
Magnifique.
On peut être bon comédien et mauvais lecteur. Vous avez remarqué ça déjà?
Magnifique c'est ce fou, passage sur Waterloo dans Les Misérables. Vous prenez Les Misérables inconditionnellement ou avec quelques réserves, Laurent Lafitte de la Comédie
Française? Non, en fait, c'était surtout... Merde, j'aurais jamais dû dire. Je fallait le dire à chaque fois. Non, en fait, c'est bon, c'est Les Misérables, évidemment. Ça a été un choc quand j'ai eu le courage de le lire en entier.
Surtout. Il en faut.
Il en faut, oui. Non, mais ce que j'aime bien avec Hugo, en manière générale, surtout presque dans son théâtre, ce que j'aime bien, c'est que quand on est un athée, on peut trouver une spiralité dans l'humanisme et comprendre le monde et les hommes par ce génie humaniste et politique, en fait, mais toujours bienveillant. Mmh. Et puis d'une qualité littéraire extraordinaire, quoi. Donc j'aime bien. C'est un peu comme une bible laïque un peu. Mmh.
Très bien. Ouais. Je pense ça.
Bien. C'est fun, non? C'est pop.
Ah ouais, pour moi tout est pop. Vous savez, ça, c'est toujours la manière dont on regarde les choses.
C'est vrai.
Qui compte.
Bon. C'est vrai.
Alors pour le film, un petit Hitchcock des familles, le légendaire Vertigo, 1958. Charline, vous qui avez la blondeur de Kim Novak et souffrez de sueur froide, comme dans le titre français, rafraîchissez-nous la mémoire.
Scotty, policier de son état, James Stewart dans la réalité, quitte son métier après un tragique accident survenu lors d'une course-poursuite sur les toits, course-poursuite qui l'a rendu acrophobe. Un jour, un ancien camarade le contacte pour qu'il file sa femme, qui est un peu chelou, mais fort jolie, c'est normal, c'est Kim Novak.
You believe I love you?
Yes.
And if you lose me, then you'll know I loved you and I wanted to go on loving you.
I won't lose you.
Let me go into the church. Alone.
Why?
Padlet!
Elle a pas sauté.
Si, elle a sauté, ça y est.
Non, on l'a poussé. Si.
On a entendu le bruit du corps. Oui, enfin bon. N'allez pas spoiler Vertigo, je vous en supplie. Laurent, vous n'avez pas la blondeur de Kim Novak?
Si, je me teins en brun.
Mais dites-nous, pourquoi ce film vous a donné des sueurs froides? Pourquoi ce Hitchcock-là?
Mais oui, il ne me donne pas de sueurs froides. Je trouve que c'est un film romantique. Mmh. Complètement. Bah oui, mais parce que
certaines idées du romantisme, on va dire.
Bah non, romantisme noir, quoi. Mm-hmm. Bah, on reste dans le 19e. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose de c'est toute la partie romantique et sentimentale du film que j'adore. C'est pas tellement le thriller. Et j'ai l'impression que pour Hitchcock aussi, c'était ça qui l'intéressait, le côté l'obsession, le côté un peu fétichiste aussi, mm-hmm. la manière dont il filme uniquement la nuque de Kim Novak, cette coiffure qui est censée être la même que sur le tableau de Carlotta, et puis la fascination de James Stewart pour cette femme qui retrouve alors qu'elle est censée être morte et qui est fou amoureux d'elle, il essaie de recréer son image et c'est vraiment la dimension romantique du film que j'aime.
Et puis cette musique de Bernard
qui
raconte, en fait on a même presque plus besoin des images.
Ah, mais c'est extraordinaire, cette partition, elle est dingue. Je trouve que ça ferait un très beau ballet, je trouve. L'histoire, déjà. Et puis, sur cette musique-là, il y a vraiment quelque chose et un argument à écrire, je trouve, sur le ballet.
Vous savez danser?
Pourquoi pas.
De la Comédie Française.
Non, je sais pas danser, non, malheureusement.
C'est une bonne raison d'apprendre. Vous avez pris quand même 2 ans de cours en Angleterre.
Bah oui, mais ça ne sert à rien.
Ah bon?
Non, je sais pas danser.
Non, okay. Pour la musique, je m'attendais à un Sepultura ou un groupe de death metal. Non, oui. Vous prenez un Aznavour. Ça passe.
Ça passe. Au fil du temps, le feu brûlant se tasse. Un amour meurt, un autre prend sa place. Qui d'un revers de main cassant le chasse. Ça passe.
Une chanson triste, une rupture amoureuse. Ouais, qu'on en parle, Laurent.
Non, mais il redémarre là. Mes lèvres à nouveau rediront je t'aime. Donc pas à vous, Antoine, mm-hmm. dans l'absolu. Ah,
vous dites ça en me regardant, donc je le prends pour moi.
Oui, mais prenez-le pour vous. C'est ce qui vous fait. Mm-hmm. C'est une question de survie. Mm-hmm. Mais j'aime beaucoup cette chanson parce que déjà, elle est un peu, on dirait un peu une orchestration de. Enfin, c'est très années 80. C'est la période. Mm-hmm. Georges Garvarentz, années 80, et j'aime beaucoup ces orchestrations-là, qui sont un peu dépassées. Très symphonique, comme ça j'aime bien ça moi.
Et la place de l'accent dans les phrases. Et ça passe,
oui, la prosodie. Ça passe, mais c'est une autre tenue, donc ça va. C'est pas toute la musique que j'aime. Là, pour le coup, on est vraiment dans un gros problème de prosodie.
Bien, et enfin, pour la série, alors là, force est de constater...
C'est moderne, mes choix, hein. Vous êtes content, non?
Moi, j'aime beaucoup.
Ça vous va?
Bah, évidemment, tout me convient. Moi.
Après, c'est, vous m'avez dit culte, hein, donc il faut vraiment des choses qui ont marqué.
Oui,
des
choses qui vous ont marqué.
On est d'accord.
Ouais, hein. On ne cherche pas de
non, parce qu'après, je me suis dit, oh, essaie d'être... Fais croire que tu es plus moderne.
Non, on s'en fout. Enfin, pour la série, alors là, force est donc de constater que vous n'avez réglé aucun de vos abonnements Canal, Netflix, Amazon ou OCS, puisque vous choisissez une série de 1994, une série pré-plateforme, donc, des Friends, qui sont aussi des amis de Charline, je crois.
Oui, et c'est une série sur la crise du logement des copains en coloc à New York pendant 10 ans.
Alors pourquoi ces amis-là, Laurent Lafitte, de la Comédie française?
Ben, putain. Ah oui. Merde. Parce que... non, mais après, il y a plein de séries, la récente, que j'aime beaucoup. Et je trouve même qu'il y a une réinvention de l'écriture qui vient des séries, étrangement, et pas du cinéma depuis quelques années. Donc, mais celle-là, c'est vrai qu'elle m'a marqué déjà en termes de comédie. Je trouve que c'est incroyablement bien écrit, très, très bien joué. Et puis, c'est la première fois, moi, que j'étais vraiment attaché à des personnages. Et quand la série s'est arrêtée, j'étais vraiment triste. C'est la première fois que ça m'arrivait. Mm-hmm. J'étais triste, quoi. Je perdais une bande de potes que j'adorais retrouver.
Enfin, elle a duré 20 ans, non?
10 ans.
10 ans. Elle a duré 10 ans,
mais vous, non ouais, vous mais... feriez un très, très bon Chandler.
Ah bon?
Ouais.
Chandler? Ah, peut-être, ouais. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ouais.
Bah, plus que Ross ou Joey.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça a déjà été fait. Donc, non.
Bien, je résume. Les Misérables, ouais. Vertigo, Aznavour et Friends. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et bien, ça nous donne ça.
You believe I love you. Ça passe. Let me go into the church. Alone. Why?
Il y use un silence. Redoutable.
Je t'aime.
Ben voilà, un concentré de pop culture brute et naturelle.
C'est un gros bordel dans la tête des gens.
OGM. Laurent Lafitte de la Comédie française, vous êtes avec nous jusqu'à 17h, mais pour l'heure, écoutons le groupe américain Hills avec ce morceau Bone Dry.
Pop, 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 Antoine Decaune sur France Inter.
All of it, shall I?
tcha-la-la. Tcha-la-la.
Bone Dry dans Pop 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 sur France Inter, c'est un morceau du groupe originaire de Los Angeles, Hills. Passons de Los Angeles au studio 611 de France Inter, oui, je sais, ça fait moins rêver, mais bon, pour continuer à parler avec Laurent Lafitte de la Comédie Française, Laurent... La fille de la Comédie Française. France Inter est une radio que vous connaissez bien. Il y a quelques années, vous étiez Philippe de Beaulieu, le médecin d'À votre écoute, coûte que coûte.
À votre écoute.
Coûte que coûte.
À votre
écoute. Coûte
que
coûte.
Anima sana.
In corpore sano.
Un esprit sain dans un corps sain.
L'esprit, c'est elle.
Le corps, c'est lui.
Docteur Philippe
et Margaret
de Beaulieu.
Alors, vous savez qu'avec Charline, on a envisagé à un moment de refaire un générique sur ce modèle-là, ouais. Parce que bah oui, c'est non.
Évidemment.
Il n'y a pas mieux.
Mmh. Mais, j'ai l'impression que sur Inter, ou alors c'est peut-être une espèce de charte, mais tout le monde a le même générique, non? C'est un mélange de musique et d'archives.
Ah non.
Non, c'est
non,
souvent
non,
ça.
Non, nous, il n'y a pas d'archives, non, de générique à nous.
Non. Ah vous non?
Non, non.
Non, parce que souvent, des petites musiques comme ça, et puis
oui, enfin, on identifie la station.
Oui, c'est ça.
Certainement. Ça, vous pourriez reprendre du service un jour?
J'aimerais vachement. Et Zabou aussi, elle adorait. En plus, il y a tellement de sujets maintenant. Parce qu'à l'époque, on a fait quand même 120 épisodes. Mm-hmm. Et on avait l'impression d'avoir fait un peu le tour des sujets un peu sociétaux de cette époque-là. C'était 2005, 2004. Yeah.
Mais vous avez pas peur d'avoir éteint.
Il y a si longtemps,
je crois. Ouais.
Ah oui?
Il y a 4 ans.
Non.
2014.
Oui, 14.
Ouais, n'importe quoi.
Mais sur l'improbabilité des libres antennes, vous n'avez pas peur d'être battu depuis? Parce qu'il y en a eu quelques-unes un peu.
Ah, les vraies?
La réalité a quelque peu dépassé la fiction.
Ah oui, mais nous, on n'était pas très loin de la réalité. En plus, c'était juste, juste avant la manif pour tous. Et les Beaulieu, il y en a eu des centaines de milliers dans la rue.
Pour ces Radio Courtoisie peut-être.
Entre autres. Hein,
Radio Courtoisie, c'est tout à fait c'est très très Beaulieu. Ouais.
Bien, assez parlé de.
Là, je voulais m'excuser par contre auprès des deux Beaulieu de France, parce qu'il y en a pas mal.
Et qui nous écoutent.
Voilà.
Il y a beaucoup de Beaulieu.
Je suis désolé, mais ça sonnait bien comme nom.
C'est fait. Bien, assez parlé donc d'À votre écoute, coûte que coûte. Parlons de L'heure de la sortie, le film de Sébastien Marnier. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, L'heure de la sortie n'est pas un film sur l'univers carcéral. Non, c'est un film qui nous plonge au cœur du prestigieux collège Saint-Joseph, dans lequel vous, Laurent, vous êtes Pierre Hoffmann, un professeur suppléant, qui va comprendre que ses élèves de 3e, tous surdoués, sont tous punk. Enfin, que pour eux, il n'y a pas de futur. Bande annonce.
Allô? Allô?
Il y a déjà eu des problèmes?
Ils ont toujours été très proches. Très solidaires, même.
C'est des ados, c'est tout. Il faut que tu comprennes ça. Ils aiment bien tester leurs limites.
C'est fini, vos conneries, là!
Pourquoi vous faites ça?
Vous voulez pas voir la vérité en face.
Vous êtes tous cinglés, ici.
Il y a un truc qui me... Alors, pardonnez-moi, je suis hors sujet, mais ça me saute à l'oreille. En vous entendant, vous avez la voix d'Alain Chabat.
Ah bon?
Oui.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, je m'en rends pas compte.
Ah ben, je vous le dis.
Ah
c'est,
bon.
Vous savez faire le chien?
Non, je crois pas.
Non, c'est dingue. Bon, ok, pardon. Dans ce film...
Je sais faire le chien à l'affût.
Ah, et ouais.
Ça donne fait... quoi?
Oh bah, oui. Très beau chien à l'affût.
C'est visuel, c'est plus visuel. Là. C'est pas très manque l'image. Oui.
Alors, dans ce film dont les ados tiennent la vedette, pas d'oreilles de chat sur Snapchat, pas de « vas-y, tu me saoules », ni de Jules en BO, ce sont pas tout à fait des ados comme les autres.
Vas-y, tu me saoules. Qui disent
l'ado en général.
Non, c'est oui. En fait, le point de départ, c'est qu'il y a un professeur qui s'est dans un collège qui s'est suicidé devant ses élèves. Mm-hmm. Il s'est défenestré pendant un cours. Et moi, je viens remplacer ce professeur. Et au sein de cette classe, il y a un groupe de IP, élèves intellectuellement précoces. Ils sont 6 et ils sont un peu bizarres, un peu menaçants. Et j'en viens à me demander si ce ne sont pas eux qui auraient poussé au suicide le professeur précédent. Donc, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe comme ça.
N'allez pas nous spoiler le film.
Non, je
vous l'ai fait avec Vertigo tout à l'heure.
C'est vrai, mais Vertigo, bon, c'est sorti il y a un petit moment.
C'est vrai.
Mais non, non. Et du coup, je vais me sentir menacé par ces élèves. Et le film est vraiment construit comme un film de genre.
C'est
un film de genre, mais en même temps assez politique, quoi, et assez un peu punk en fait. Oui, c'est vrai. Ouais.
Ces élèves-là ne sont pas seulement intellectuellement précoces, ils sont juste peut-être un peu plus lucides que les adultes qui les entourent. Du coup, on se demande qui sont les cyniques de cette histoire.
Oui, c'est vrai qu'en tout cas, eux, ils veulent faire face aux réalités. Et puis, ils ont une vision un peu, comme souvent, l'adolescence, un peu romantique et morbide en même temps. Décidément, on reste dans le romantisme noir. c'est intéressant de se dire, bon, il y a la réalité à laquelle eux font face, qui est très différente de celle à laquelle ma génération a dû faire face. Et Sébastien, il a filmé les jeunes comédiens qui sont dans le film, vraiment à un moment particulier, parce que quand il a dû faire les post-synchro après le tournage, ils avaient mué, ils étaient embêtés parce qu'ils avaient plus vraiment la même voix.
Je peux plus faire la voix
de mon perso, merde. Donc, fais chier. Et, le vieil ado des années 90. Fais chier, merde. Et du coup, il a vraiment, mais en même temps, c'était embêtant, mais en même temps, il a vraiment réussi à capter un moment particulier de leur vie, quoi. Ouais.
Les ados disent souvent, je suis au bout de ma life. Alors c'est curieux d'être à la fin de sa vie, hein, à 16 ans, mais question à la Mireille Dumas, étiez-vous ce genre d'ado, Laurent Lafitte ?
Pas du tout. Moi j'étais hyper optimiste, hyper positif. Le relou. Super optimiste qui écoute Aznavour.
Ça va, ouais.
Et j'avais ressenti de décalage avec le monde adulte.
Si. Non, moi j'avais hâte d'être adulte en fait. J'avais hâte. Je fantasmais notamment, ça paraît con, mais la liberté de mouvement. Je trouvais ça extraordinaire de pouvoir monter dans un véhicule.
De se laisser pousser la moustache.
De se laisser pousser la moustache et pouvoir partir où on voulait. Je trouvais ça dingue. Mais vraiment quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans quoi. Et j'ai toujours fantasmé la liberté. Et j'ai l'impression que c'était un point d'arrivée. Quand on était adulte, assez, on était arrivé. Et après, maintenant, c'était que du plaisir, de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance.
Donc, alors pas d'adolescence chez Laurent Lafitte.
Mais vous dites ce qu'on appelle un vieux jeune, non?
Un petit peu, ouais, j'avoue.
Est-ce que le Laurent Lafitte de 16 ans parle toujours à celui d'aujourd'hui?
Cette question?
Vous lui devez des choses, forcément. Il y a des comptes à lui rendre.
Oui, peut-être, oui.
Est-ce que vous avez le permis, déjà?
J'ai mon permis, ça y est. Je l'ai eu tard, mais je l'ai. Ouais.
Je reviens au film des enfants ou des adolescents inquiétants. Ouais. On pense immédiatement à des films comme Le Village des damnés ou Ruban Blanc.
Grande référence de Sébastien. Ouais. Et même dans la musique de Zombie, qui est vraiment très importante dans le film, il y a ce côté un peu synthé, 80, très Carpenter.
Alors du coup, est-ce qu'au moment du tournage, vous sentiez déjà la pesanteur et l'angoisse qui émanent du film quand on est en salle?
Alors après, ça peut vraiment être très réussi ou très raté au montage. Donc sur le plateau, on ne sait jamais vraiment ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'étais rassuré parce que ce qui était difficile, c'était de trouver les jeunes acteurs qui allaient pouvoir en même temps être suffisamment menaçants, mais surtout pas caricaturaux ou forcés. Donc, et quand j'ai vu que le cast était réussi, là déjà sur le plateau, ça m'a rassuré.
Laurent, on vous sait passionné par la politique et l'heure de la sortie est d'une certaine manière un film politique, en tous les cas un film qui nous rappelle l'inertie de la politique traditionnelle face à l'urgence écologique. Comment est-ce que le citoyen Laurent Lafitte de la Comédie Française réagit à cela ?
Mais par mes choix en choisissant ce film-là, c'est une manière de m'exprimer en restant à ma place, j'ai envie de dire. C'est horrible les gens qui disent j'ai envie de dire, puisque de toute façon je viens de le dire. Donc
on le dit tous.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas un film à montrer aux climato-sceptiques, par exemple.
Ben j'ai envie de dire que là ça va au-delà du climato-scepticisme, parce que je veux pas dévoiler ce qu'il y a dans le film, mais les images qu'on voit dans le film sont des images réelles, et ce qui arrive à la fin du film, qui est assez spectaculaire, c'est déjà arrivé et ça se reproduira sûrement, malheureusement. Donc c'est pas un film d'anticipation, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
L'heure de la sortie, c'est un film inquiétant, troublant, glaçant, mais dans lequel il fait chaud. Vous y transpirez beaucoup, Laurent. C'est effets spéciaux ou sudation naturelle ?
Les deux. Parce qu'on a tourné pendant une canicule, donc il faisait super chaud. Et après, j'étais un peu vaporisé.
Et puisqu'on fait un point sudation et corps, les multiples tatouages que vous arborez, faux ou vrai ?
Ce sont des faux tatouages, oui. Mais ça m'irait pas du tout d'être tatoué, je pense.
Pourquoi ?
Vous n'êtes pas acteur studio, vous ?
Non, je ne veux pas tatouer pour un rôle, non. Non.
Laurent, je saute du coq à l'âne, hein, pour finir, mais la première fois que je vous ai vu jouer, c'était dans un club en 2008, à côté de la place de la République,
dans
le spectacle.
Club.
Ouais, enfin, un petit théâtre.
Ah, le Palais des Glaces. Ouais. Ouais, mais c'est pas un club.
Oh, c'est un petit théâtre.
Pas un club.
Le spectacle s'appelait Laurent.
Un club maître, quoi. Vous confondez avec Patrick Bruel. J'ai pas travaillé au club.
Le spectacle s'appelait Laurent Lafitte, comme son nom l'indique. Vous trouvez pas qu'elle a beaucoup changé en 10 ans, la place de la République?
Oui, c'est vrai. On y circule moins bien, oui, bizarrement.
Et la comédie avec option grincement de dents, un genre dans lequel vous excellez aussi, on vous y revoit bientôt.
Ah oui, 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 je vais réaliser mon film.
Qui sera une comédie?
Qui est une comédie, ouais. Ouais, cet été. Donc, j'adore la comédie, mais j'adore ça, je suis pas en train de...
Non, parce que c'est vrai que depuis le Verhoeven, en fait, on vous projette beaucoup dans des univers un peu...
Oui, parce que quand il y a un film qui est un fort comme ça, qui marque un peu les gens, les propositions aussi sont réorientées de manière différente. Et comme c'est un cinéma que j'adore, j'en ai profité pour explorer.
Je voudrais finir avec Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, hein, c'était le titre donc de votre premier seul en scène. Il était beaucoup question de fist fucking.
Non, il y avait un sketch sur le fist fucking. C'est vous qui faites une fixation sur.
Mais on a tous retenu ça, Laurent, la fille de la Comédie Française. Mais si, quand vous regardez dans le rétro aujourd'hui, vous vous dites que de chemin parcouru.
Je sais pas, je regarde pas dans le rétro. Déjà.
Ah bon
non, oui c'est vrai. Non, je regarde pas dans le rétro, mais c'est, quand on fait un raccourci comme ça, oui, ça. Du fist fucking à l'heure de la sortie, c'est ça quoi.
Ouais. Bien. Merci Laurent Lafitte. Nous allons retrouver Pierre Richard dans quelques instants, mais après l'avoir écouté chanter au hé, hein. Bon.
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma poupée, mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour? Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et un bon. Où c'est que je lave la famille là. Mon sirop, ma camomille, ma potion, mes cachets, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, bon, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi.
Et un bon de l'immortel Nino Ferrer dans Pop-Up sur France Inter, chanté par notre invité du jour, Pierre Richard. Car oui, Pierre Richard chante aussi quelques disques au compteur. Ça, c'était en 2009. Nous sommes donc, je le répète, en compagnie de Pierre Richard. Gislain, c'est notre réalisateur. T'es pas obligé de mettre le son du film La Chèvre, hein, à chaque fois que je dis Pierre Richard. Merci beaucoup. Non, aujourd'hui, nous devons le plaisir de votre visite, Pierre, à la sortie mercredi de À cause des filles, le nouveau film du délicieux Pascal Thomas. Alors, je résume l'action. À l'occasion d'une noce d'où le mari s'est enfui à peine la cérémonie terminée, chacun va s'employer à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur la séduction, l'amour et la tromperie et les surprises de la vie conjugale. Bande annonce.
C'est parfois tellement mystérieux l'amour. Ça peut être bien plus étrange que vous ne le pensez.
En amour, la seule chose qui compte, c'est le coup de foudre.
C'est un monde, c'est un univers, c'est une chimère, c'est un être mythologique.
Oh, c'est chaud. On drague, on met parfois un moment à séduire l'autre. Patatras, on se rend compte que c'était pas notre genre. Pour moi, la mission des hommes dans la vie n'est pas de réussir à nous séduire, mais de continuer à échouer.
À cause des filles, le nouveau Pascal Thomas, avec notamment Pierre Richard, mais vous êtes loin d'être le seul. Ça s'appelle oui. À cause des filles. D'ailleurs, pourquoi à cause des filles, deux points de suspension et point d'interrogation, plutôt que trois points de suspension et un point d'interrogation, ou trois points de suspension, un point d'interrogation et un point de suspension? Pourquoi pas?
Mais j'ai rien compris à ce que vous venez de dire là.
C'est juste un détail sur la ponctuation.
Point de suspension. Qu'est-ce que c'est la question? Même la question, j'ai pas compris, c'est quoi?
Il n'y en avait pas vraiment, je crois. Pascal Thomas a expliqué que pour ce film, beaucoup de séquences ont été conçues pendant le tournage. Est-ce que cette manière de travailler vous sied?
Moi, j'adore la façon de travailler de Pascal. Parce que on a l'impression qu'il ne travaille pas d'ailleurs. Mmh. Et du coup, j'ai l'impression que je ne travaille pas non plus. Et c'est tout ce que j'aime, évidemment. Non, parce que j'adore Pascal, il me faisait penser à Jacques Rosier, avec qui j'avais tourné, qui est un ami à lui d'ailleurs, avec qui j'avais tourné il y a 40 ans, je ne sais plus combien. C'est que, même la veille au soir, il change encore le texte, et puis il m'en donne un autre, et puis le lendemain matin, il me dit, mais si tu as une autre idée. Mmh. Et puis, il est comme ça, très, très, très... Il a une grande souplesse. Bon, d'abord, premièrement, il est très intelligent.
Oui.
Et j'ai
c'est
dit
un
ça,
littéraire.
C'est un littéraire. Oui. Et donc, quand il dit des choses, c'est jamais banal. Et quand il vous propose à tourner un personnage, c'est jamais banal. Mmh. Et d'une. Donc déjà, c'est amusant. Et puis deuxièmement, parce que justement, j'aime bien pas trop savoir avant ce que je vais tourner, parce qu'au moins, comme ça vous évite d'avoir des trucs. Mmh. Finalement,
oui, oui.
Souvent on se repose, on a le temps de se dire oh là là, ça j'aime bien et je vais te montrer ce que je sais faire là-dessus moi. Et que là non, on est moins malin parce qu'on sait pas trop ce qui va nous demander. Et ça c'est intéressant.
Vous aimez bien la sécurité en fait.
Hein?
Vous aimez bien la sécurité.
J'aime bien la sécurité et même routière. Bon, mais donc on sait pas trop.
Non, on l'a vu dans les vues
ce qu'on va tourner. Et puis on sait même pas trop non plus comment il va tourner. Et au dernier moment, il n'a pas encore changé de plan. Puis même il demande pas conseil bien sûr, mais il demande comment tu le vois. Et c'est formidable parce que je dis oh mais je le vois comme ça. Ah ben j'adopte. C'est bien cette manière de tourner.
Mais c'est même allé jusqu'à l'apparition de nouveaux personnages en cours de tournage. C'est le cas de Marie-Agnès Gillot, qui est votre partenaire direct dans le film. Ce rapport hyper spontané à la construction d'un film, c'est un facteur d'amusement supplémentaire pour vous? C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous dit « Ah bah finalement, il va y avoir elle dans la scène aussi ».
Mais c'est-à-dire que oui, et quand je l'ai vu, il m'a parlé du rôle que j'aurais, en me disant « Je te vois avec une personnage comme ça ». Et d'ailleurs, j'ai pensé, moi, c'est moi qui ai pensé à Marie-Agnès Gillot, pour de bonnes raisons, c'est que dans mon spectacle « Petit éloge de la nuit », elle avait accepté de tourner sur un grand écran où elle dansait sublimement bien, évidemment, et c'était une sorte de fantasme. D'ailleurs, je ne la voyais jamais, j'ai toujours tour de dos, mais... Et je lui ai dit, moi, je vois bien Marie-Agnès Gillot, je lui ai demandé, elle a dit oui, et c'est un cadeau énorme qu'elle a fait à Pascal et à moi, parce qu'elle est tellement belle. Et puis surtout, ça correspondait à l'histoire que voulait raconter Pascal. C'est finalement peut-être le même de tous les. C'est des tiroirs. Hein, il n'aime pas qu'on dise des sketchs parce qu'il y a quand même une colonne vertébrale. Ouais. Ce sont des tiroirs. Mais c'est peut-être le seul qui ne soit pas à volonté comique, avec un objectif de faire rire. Il est poétique, il est un peu surréaliste comme ça. Je ne vais pas dire ce qu'elle représente parce que je ne vais pas. J'ai un peu dansé avec elle et. Ça m'a fait plaisir de lui apprendre quelques pas.
Pierre Richard, complétez ma phrase à partir de votre propre expérience. À cause des filles...
J'ai pas entendu quoi, mais...
Complétez ma phrase à partir de votre propre expérience.
Oui.
À cause des filles...
À cause des filles?
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à cause des filles?
Oh, des bouleversements qui ne regardent que moi. les bouleversements.
Mais il y en a eu.
Oui, quand même. Pas toujours été facile.
D'accord.
Elle n'est pas très reposante en même temps. Dans ce film, il est question d'amour, de solitude, de couple, de sexe, mais aussi de la fuite du temps. On a parlé tout à l'heure d'humour et de poésie vous concernant. Est-ce qu'avec ce genre de film, vous avez l'impression de faire se rejoindre les deux pôles?
Les deux pôles entre le...
Entre l'humour, la poésie...
L'humour de Pascal, c'est sûr. La poésie, oui, d'ailleurs, il en a beaucoup. Et le film, par moments, est très comme ça, très... Comment dirais-je, ésotérique, très beau. Pascal, je connais depuis longtemps, c'est la première fois qu'il m'a demandé de tourner avec lui, il était temps. Parce que j'en aurais rêvé. Même mon ami Carmé a tourné avec lui et je l'avais, j'étais jaloux. Et quand il m'a demandé dernièrement, enfin dernièrement, il y a de le faire, j'étais vraiment ravi, je le regrette pas. Parce qu'une fois de plus, moi j'ai vu le film et comme toujours, il y a une colonne vertébrale, mais ça part un peu dans tous les sens et moi j'adore ça. C'est pas rigoureux. C'est drôle parce que c'est pas rigoureux, c'est pas exigeant, mais justement, quand on est trop rigoureux, trop exigeant, quand on veut, c'est des autoroutes. Moi, j'aime bien les chemins de traverse, et lui, il est l'art du chemin de traverse.
Justement, Pascal Thomas, le réalisateur d'À cause des filles, dit en avoir marre du cinéma qu'on nous propose aujourd'hui. Marre, je le cite, hein, des cinéastes aux yeux tristes et au regard lourd qui prennent la pose et utilisent la misère d'autrui pour répondre aux attentes des spectateurs bobos et bien pensants.
Ouais, c'est-à-dire.
Vous le rejoignez sur ce point?
Oui, tout à fait. J'ai une phrase de ça peut s'appliquer aussi bien à un comédien qu'à justement un metteur en scène ou même à un auteur. Je me souviens, j'ai la lettre de, j'ai réussi à la lettre que Louis Jouvet a écrit à Bernard Blier le lendemain d'une soirée théâtrale où Bernard jouait, et le lendemain Jouvet le félicitait et lui disait cette phrase, je pense que je l'ai même dite pour le flatter à Pascal, et il faut jouer léger pour avoir du poids. Et ça c'est complètement Pascal.
Oui.
Il est léger, mais ça ne veut pas dire que c'est superficiel.
Puisqu'on en est aux citations, Pascal Thomas dit aussi qu'un film doit être comme un homme sain, avec la fragilité dans son cœur et la comédie dans sa tête. C'est votre état aujourd'hui, Pierre Richard.
Mais j'adore ça. Et j'épouse complètement. C'est pour ça que je regrette d'avoir pas connu Pascal plus tôt, mais en tout cas, c'est jamais trop tard. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et d'affection maintenant. Parce qu'en plus, dans la vie, il me fait absolument rire, vu qu'il change d'avis comme de chemise. Sur tous les points de vue.
C'est un homme versatile.
Hein, il peut être, même des fois, on parle politique, mais je dis, mais c'est le contraire de ce que tu m'as dit hier. Il me dit, oui, mais... Et le lendemain, il me dit encore un autre truc. Je dis, mais attends, hier, pas plus tard qu'hier, j'adore ça.
Ça, c'était Pierre Richard dans Pop Pop. Merci Pierre Richard. Et nous passons maintenant de Pierre Richard à Edge Burns.
Le Maxi Best. Sur France Inter.
Hello, Edge Burns.
Hello, comment ça va?
Ah, mais vous parlez français?
Oui, tout à fait.
Ah, bah, on peut donc dire à notre traducteur de repartir. Merci Jean-Jacques.
Ah bon? Vous êtes sûr?
Oui. Parce que,
bon, bah, c'est pas grave, j'aurais pas mon cachet du coup.
Oui, enfin, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, Edge Burns, vous êtes donc français. Mais ça va, vous fâchez pas non plus. Oh là là. Et en réalité, vous vous appelez Renaud Brunessa. Et vous ne venez pas du Vince Conzine, mais de Romans-sur-Isère, c'est bien cela?
Ouais, c'est ça.
Alors, comme vous êtes français, on dit quoi, Ashburn?
En tout cas, ça fait 10 ans que je l'entends. Ouais. Voilà. D'ailleurs, je l'ai entendu chez vous aussi, il n'y a pas trop longtemps, je vous ai écouté il y a quelques temps.
Je me demande bien qui a pu le prononcer comme ça. Et d'ailleurs, ce pseudo, il renvoie à quoi, Ashburn?
Malheureusement,
c'est un mystère.
C'était sûrement un mystère au départ, mais maintenant, c'en est tellement. Avec mon âge grandissant, comme l'indique le nom de mon album, je ne m'en rappelle même plus.
C'est vrai.
Honnête. Bah, c'est un truc que j'ai pris en 2005, je sais plus pourquoi. Je voulais un truc qui sonne un peu français, anglais, on sache pas trop, brouille un peu les pistes.
Ça marche.
Donc le Monsieur Burns aussi, je l'ai souvent.
Dans les Simpsons?
Ouais, je peux vivre avec. Mais
ça marche. Alors, l'album s'appelle Midlife, hein, donc à mi-chemin, c'est ça, milieu de la vie.
Si tout va bien,
Si tout va bien, oui. Vous venez donc de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, c'est là que sont vos racines, mais votre tête, elle est dans le rock des géants américains, les Johnny Cash, les Neil Young, les Springsteen. Votre Amérique, vous êtes souvent allé, y compris pour travailler, est-ce qu'ils ont contribué à démythifier un peu l'image que vous en faisiez au départ?
Absolument, même si j'ai eu des belles expériences de travail aux États-Unis, je ne suis plus dans cette espèce de rêve un petit peu aveugle de l'Amérique qu'on a avant. En plus, j'ai fait l'avant-dernier album en pleine montée du Trumpisme, et puis j'assistais au discours du gars et à tous les gens avec qui je bossais, incrédule face à ce truc-là, avec la menace grandissante un peu, qui flippait. Donc du coup, de voir ça un peu de l'intérieur, ça démystifie.
Ça calme.
Ouais.
On vient de le dire, votre nouvel album s'appelle Midlife, un titre qui sent soit la crise, soit le bilan.
Ou un peu des deux.
Si tout vraiment va bien.
Ouais, le bilan de la crise. disons que je ne me pose pas les mêmes questions qu'à 20 balais. C'est le septième album, mine de rien. Et puis j'ai dit, j'étais très dans la métaphore jusqu'à présent, l'écriture très voilà cinématographique, métaphorique. Là, j'ai essayé d'y aller franco et de parler de où est-ce que j'en suis, quel âge j'ai, pourquoi. Est-ce que j'ai plus d'angoisse qu'avant, moins d'angoisse? Bon, la réponse, c'est plus.
C'est voilà. Bizarre parce qu'on n'est pas, du tout dans un monde anxiogène, pourtant.
Non.
Je vous propose d'aller vous mettre en place sur la scène mythique hein, de Pop Pop Pop. Prenez votre guitare, mettez-vous en place. Dès que vous êtes prêt, vous me faites un petit signe. Vous, Luce, quand vous chantez en américain, le public américain est sensible à votre French Touch ou...
Eh bien, j'ai chanté, j'ai eu un groupe qui s'appelait The Scribblers. Et j'ai fait une petite tournée en Suisse et les Suisses trouvaient que je chantais mais hyper à chier en américain.
Ouais, très bien. Vous êtes prêts?
Tout à fait.
Edge Burns dans Pop Pop Pop.
Well, it will come around, or you won't see it coming or hear it make a sound. But would you sing along? And while come the lightning after such a long wait, can you feel the beat here deep down in your little chest? I know the river runs wilder in your other self. Now you can almost taste it on your sharpened toes, and you can almost sing it in your wildest prose. Oh, looks like the mockingbird stopped laughing at you. Hold me like a stranger till September is through. And you will come around, red-eyed in silence to be running out of time. Well, can you see it through my eyes? Snatches of sunrise after such a long drive. And I hear you humming that tune, the one that I used to know. Now you can almost sing it in your brightest tone. Can you feel that longing filling up your little breast? I know the river runs wilder in your other self. My little hometown is dying, but my little tigress is wild. And I can see it in her eyes that she can never be tamed. And I can almost sing it in my brightest tone. And I can almost say it in my wildest prose. Oh, looks like the mockingbird stopped laughing at you. Hold me like a stranger till September is through. Oh, looks like the mockingbird stopped laughing at you. Hold me like a stranger till September is through.
Tigress, c'était en live sur la scène de Pop Pop Pop, cet extrait de l'album Midlife de Edge Burns. Merci infiniment. Edge Burns, Midlife, ce septième album est disponible évidemment et j'en profite pour annoncer que vous serez en concert à la Maroquinerie à Paris le 14 mai prochain, à Mérignac le 21 mai, à la Philharmonie de Paris et le 7 juillet à Saint-Péray. Toutes ces dates sont à retrouver sur franceinter.fr. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus et Sonia Leglen, à la réalisation, à la technique Loïc Frapsos, Aurélien Esventre, rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Demain, je fais passer Jimmy Page et Rival Sons dans mon mixeur de pop culture.